Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9, vous écoutez La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft, Picassoft qui s'est donnée pour mission de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique et qui héberge des services web respectueux de la vie privée et libre. Aujourd'hui, le thème du jour, donc, ce sera les moteurs de recherche. Pour ce faire, je suis avec Stéphane et Rémi de Picassoft, salut à vous.
Bonjour Quentin.
On remercie aussi chaleureusement Audrey qui nous a bien aidé à la préparation de cette émission. Et pour parler moteur de recherche, on a l'immense honneur d'accueillir Tristan Nito, directeur de Quant, fondateur de Mozilla Europe, auteur de surveillance chez CF Éditions et auteur du Stenblog. Bonjour Tristan.
Bonjour.
Et bien, je laisse la main à Stéphane pour la traditionnelle interview.
Eh bien, bonjour à tous. Donc, juste au cas où certains ne le sauraient pas, Quant est un moteur de recherche. C'est donc une alternative au moteur de recherche le plus connu, celui de Google. On parle souvent d'alternative dans La Voix est Libre et on a souvent mentionné Quant. Et donc, on est très content aujourd'hui d'accueillir Tristan. Alors, Tristan, c'est parti. Donc, nous, on s'est déjà croisés, en fait, à une époque lointaine, celle de ton engagement dans Mozilla Europe. Il s'agissait à l'époque de lutter contre le navigateur unique qui était Internet Explorer. C'était pas à l'époque Google qui était en cause, mais Microsoft. Et aujourd'hui, avec Quant, j'ai l'impression que tu as l'ambition de lutter contre le moteur de recherche unique, celui donc de Google. Est-ce que c'est la piste et est-ce que l'idée, c'est d'avoir du choix ?
Bah oui, ou alors, je sais pas, je dois le faire exprès ou pas, ou il y a quelqu'un qui met de l'eau dans mon robinet pour lancer dans des causes perdues, mais c'est vrai que c'était pas gagné à une époque de défier Microsoft sur Internet Explorer, et aujourd'hui c'est pareil sur les moteurs de recherche à défier Google. En fait, moi je suis informaticien depuis que je suis tout petit, je trouve que l'informatique, puis maintenant on dit numérique, parce que ça a vraiment... ça touche tout dans nos vies, je trouve que c'est formidable, mais il y a quand même des tas de choses qui vont pas bien dans ce monde numérique. À une époque, c'était le monopole d'Internet Explorer qui prenait pas bien soin du web, et aujourd'hui, la problématique, c'est plutôt autour du monopole du moteur de recherche par Google, et aussi son business model, qui est celui de la publicité ciblée, avec toute la problématique de données personnelles que ça pose. Et donc, moi, je dois avoir une tendance à faire du don-quichotisme numérique. Et je me suis dit, bon, allez, je vais rejoindre ce projet Quant qui est intéressant, de fournir une alternative au moteur de recherche Google.
Eh bien, écoute, je vais rester aujourd'hui dans un petit rôle de Sancho Panza. Et puisque tu as parlé du modèle économique de Google, on peut commencer par ça. Quant est aussi un moteur qui vit de la publicité. Donc, on pourrait penser que c'est la même chose que Google Search, mais qui, je cite, respecte la vie privée. Alors, ça veut dire quoi ? Quelle est la différence ? On va voir qu'elle est importante. Et fondamentalement, on pourrait se demander qui vous donne de l'argent et pourquoi ?
Bon, alors il y a quelque chose avant de répondre à ta question. Il y a quelque chose. Je me mets à la place des auditeurs et en essayant d'être le plus grand public possible. Souvent, quand je fais une intervention publique, je demande aux gens est-ce que vous êtes Google, est-ce que vous êtes client de Google ou client de Facebook, parce que Facebook c'est pas un moteur de recherche, mais le business model est le même. Et il y en a beaucoup, souvent, qui lèvent la main en disant oh, ouais, moi je suis client. C'est quand la dernière fois que vous l'avez renvoyé un chèque? En fait, c'est ça. Quand t'es client, tu vois, tu utilises un produit ou un service et tu le payes. Et là, eh ben, évidemment, ça arrive que des gens envoient un chèque à Facebook ou à Google, mais en fait, c'est pour passer de la pub. Sinon, l'utilisateur lambda lui-même ne paye pas le service. Et c'est là tout le problème. J'ai tendance à comparer ça, en fait, à des vaches qui sont dans un champ. Je demande aux gens, est-ce que les vaches sont clientes du fermier? Et là, tout d'un coup, on voit qu'il y a un déclic, en fait, souvent sur le visage des gens. On fait, oui, alors en fait, non, les vaches ne sont pas les clientes du fermier. Mais le client du fermier, si c'est des vaches laitières, eh bien, c'est une coopérative laitière ou une grosse boîte comme Lactalis qui va acheter du lait au fermier. Le fermier, il a intérêt à prendre soin des vaches, mais c'est pas pour ça qu'ils sont dans une relation où les vaches sont clientes du fermier. Eh bien, avec Google et avec Facebook et avec beaucoup de services sur Internet, c'est le même principe. Nous, on est le bétail, en fait. Et les vrais clients, c'est eux, on les voit pas. C'est des gens qui passent de la publicité, qui achètent le droit à avoir de la publicité qui nous est affichée. Le problème, c'est que cette publicité, elle est ciblée. C'est-à-dire que cette publicité est affichée pour nous parce que la plateforme, que ce soit un Google ou un Facebook ou des autres du même genre, veulent tout savoir sur nous, captent énormément de données personnelles sur nous, quel est notre historique de recherche, notre historique de navigation, sur quels articles on clique, et quel genre de commentaires on laisse ici ou là, comment on se déplace, c'est pour ça qu'ils nous offrent gentiment Google Maps, et puis Google Calendar pour savoir qui on rencontre, et puis Google Contact pour savoir qui on fréquente, qui on appelle, et Android qui permet pousser tous ces services vers l'individu. Et tous ces services, toutes ces applications, elles sont faites pour capter de la donnée personnelle, pour tout savoir sur nous, et à ce moment-là, envoyer de la publicité ciblée qui est vendue à l'annonceur publicitaire, qui lui est le vrai client. Alors chez Quant, on s'est dit que ça n'allait pas, pour des tas de raisons, justement liées à la captation de données personnelles. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait inventer un moteur de recherche plus vertueux, plus éthique, qui fournirait des réponses aux questions qu'on se pose, comme les autres moteurs de recherche, mais qui, lui, ne capterait pas de données personnelles. Et donc, chez Quant, on fait de la publicité, c'est vrai, on est extrêmement clair là-dessus, mais c'est de la publicité contextuelle et pas ciblée. Alors, il y a une différence majeure, c'est que la publicité contextuelle, c'est en fonction de ce que tu tapes comme recherche qu'on va te donner de la publicité. Et sinon, on ignore absolument tout de vous. Donc quand, Stéphane, tu arrives sur Quant.com et tu tapes soupe à la tomate, on ne sait rien de toi. Ton adresse IP, on l'oublie immédiatement. Tout ce qu'on sait, c'est que tu viens de taper soupe à la tomate. Et là, on se retourne vers des annonceurs et on dit, est-ce qu'il y a des annonceurs qui sont intéressés sur les mots-clés soupe à la tomate, ou bien soupe, ou bien tomate, ou bien cuisine. Et à ce moment-là, il y a des annonceurs qui vont dire, ah ouais, moi, je suis prêt à mettre tant de centimes pour passer une publicité auprès de quelqu'un qui s'intéresse à la soupe à la tomate. Et c'est ce qu'on fait.
Ok, bah écoute, merci pour cette explication très claire.
Et, c'est un peu long, hein, je suis désolé, mais il y a des principes qu'il est essentiel d'expliquer avant de pouvoir répondre, parce que sinon on a l'impression que c'est la même chose que Google.
Je crois que c'était le juste timing, et en plus les connaisseurs auront remarqué que tu as donné une touche végétarienne à ta parabole et apprécieront donc le passage de la vache laitière au cochon et à la charcuterie. Pardon, le contraire. Tristan, une petite question qui fâche, comme je te connais, je me permets. Un certain nombre de personnes, et je l'avoue, dont je fais partie, reprochent à Quant d'avoir choisi Microsoft Azure comme infrastructure de stockage. Pour dire ça clairement, ça veut dire que vous louez à Microsoft les ordinateurs qui font fonctionner Quant. Et du coup, bah, est-ce que ça veut dire que vraiment, aujourd'hui, en 2019, bientôt 2020, il n'est pas possible de se défaire des géants américains ? Et est-ce qu'il n'existe pas d'acteurs européens, sur lesquels on pourrait s'appuyer ? Je pense par exemple à OVH.
Oui, alors on est fan d'OVH. Moi, je suis fan de ce qu'a réussi Octave Klaba. Vraiment c'est génial, on a essayé de travailler avec eux, ils font du super boulot, mais Microsoft est arrivé avec une architecture matérielle qui nous convenait mieux, et donc on a choisi cette architecture matérielle. C'est malin parce que l'acronyme m'échappe, mais en fait c'est un certain type de circuit qui est très adapté et très performant pour le genre de travail qu'on fait sur un moteur de recherche. Et donc, techniquement, là-dessus, Microsoft, justement, parce que Microsoft aussi fait le moteur de recherche Bing, eux, ils ont conçu cette infrastructure pour répondre à leurs propres besoins, et donc, ils la mettent à notre disposition, moyennant finance, bien sûr. C'était plus avantageux d'utiliser Bing, de louer des machines chez Microsoft, pardon, parce qu'ils ont cette expertise sur ces circuits imprimés circuits intégrés très très précis. Voilà. Mais on a aussi notre infrastructure, on a plusieurs centaines de serveurs Quant dont on est propriétaire, qui sont dans un data center en région parisienne. Le cloud de Microsoft nous est utile, mais ponctuellement, en fait, quand on peut renforcer nos besoins en infrastructure. Okay. Essentiellement, le cœur du logiciel, il tourne sur nos machines à nous, et tout ce qui peut être éventuellement lié à des données personnelles, par exemple l'adresse IP, eh bien ça reste sur notre infrastructure à nous, et jamais ça ne sort.
Oui, ok, merci bien de cette précision qui n'est effectivement pas neutre. Et j'espère que peut-être dans le futur, un jour, les choses évolueront, mais on verra ça plus tard.
Juste une précision, la beauté du cloud, c'est que c'est temporaire, tu vois, c'est une location par opposition à être propriétaire du matériel. Donc quand tu as des besoins ponctuels de calcul, genre nous, quand on fait une indexation du web, et ça demande beaucoup de calcul et de temps machine, c'est plus avantageux de louer que d'être propriétaire du matériel. Et ça veut dire aussi qu'on peut se désengager plus facilement par la suite.
Ok. J'essayais une projection dans le futur, mais si on refait un petit peu de d'histoire, encore une fois, j'ai dit en introduction que tu avais été, on va dire, connu. En fait, tu avais commencé à j'arrive pas à faire cette phrase, donc je l'arrête immédiatement. Donc, en tout cas, nous, on s'est connus à l'époque où tu as pris la tête de Mozilla Europe. Donc, vous étiez, je rappelle, à une poignée vraiment à ce moment-là à résister à l'hégémonie du navigateur Internet Explorer. Et il se trouve que, tu disais tout à l'heure, tu faisais référence à Don Quichotte, mais une petite différence quand même, c'est que vous avez réussi. Et à l'époque, on a effectivement, Firefox était repassé, était parti de quelques pourcents, tu te souviendras de ça mieux que moi, mais de quasiment rien, était repassé au-dessus de la barre de 50% des parts de marché. Et malheureusement, aujourd'hui, notamment si on intègre les dispositifs mobiles, eh bien, Firefox est retombé en dessous des 5%. On parle souvent de ça, hein, et on essaye de convaincre les auditeurs de retourner à Firefox ou d'aller à Firefox. Est-ce que tu as un argument de ton côté pour préférer Firefox à Chrome ?
Alors, il y a plusieurs choses. Donc oui, évidemment, hein, moi, pour être parfaitement clair, j'utilise Firefox sur mon smartphone et sur mon ordinateur de bureau. J'ai jamais quitté Firefox, et même au moment où c'était moins bien. Il faut voir que Firefox a fait d'énormes progrès ces 2-3 dernières années d'un point de vue technique. Donc je pense que ceux qui sont passés à Chrome devraient réessayer Firefox pour se rendre compte que s'ils l'ont abandonné à un moment, bah en fait Firefox a rattrapé son retard. Ça, c'est une première chose. Il y a un deuxième argument, c'est que fondamentalement, Chrome, et comme tous les produits de Google qui sont gratuits, c'est un produit d'appel, c'est un cheval de Troie, c'est un faux cadeau, c'est un cadeau empoisonné. Ce truc-là, il est là pour rendre les gens plus dépendants à Google, qu'ils ne puissent plus quitter. Hein. On se souvient de ce que je disais tout à l'heure, les gens, c'est le bétail de Google. Seulement, il n'y a pas de fil de fer barbelé. Alors pour les retenir, on leur donne des trucs gratuits dont ils ne peuvent plus se passer. Et Chrome est un de ces instruments-là. Et il faut aussi se souvenir que l'objectif de Google, c'est de capter un maximum de données personnelles pour pouvoir cibler la publicité. Donc tout ce qui vient de Google doit être regardé à l'œil de leur business model, qui est la captation de données personnelles en vue de servir de la publicité ciblée. Donc déjà, choisir Firefox, c'est se détacher de l'ogre Google, un petit peu, pas complètement, on peut continuer à utiliser leur moteur de recherche, et puis après on peut utiliser Quant et passer à Quant au lieu du Google Search, et puis après on peut utiliser Thunderbird ou n'utiliser Gmail, enfin bon, des tas de choses comme ça qui peuvent réduire notre dépendance à Google, parce que les intérêts de Google ne sont pas complètement alignés avec ceux de l'utilisateur lambda. Hein. Évidemment, le fermier, il a envie que sa vache, elle soit en bonne santé et qu'elle s'en aille pas, mais l'idée, c'est quand même de la traire au maximum. Ben, c'est exactement ça, cette approche chez Google. Et nous, en tant que bétail, si on veut rester indépendant et avoir de la capacité d'agir, il faut se détacher de ces géants, même s'ils sont addictifs. Et enfin, il y a une troisième raison, c'est que le web, c'est un écosystème. Il y a des tas de choses qui coopèrent et travaillent ensemble dans le web. Et en fait, un écosystème, c'est un peu comme un organisme vivant. Et aujourd'hui, on se rend compte que le moteur à l'intérieur, le moteur de navigation à l'intérieur de Chrome, il est utilisé par quasiment tous les navigateurs du marché, sauf Firefox. Et en fait, donc Firefox qui fait Gecko, qui est son propre moteur à lui, ça lui coûte très cher de faire ça, mais c'est important qu'il continue, que Mozilla continue à faire Firefox avec Gecko. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui met de la diversité dans l'écosystème et donc ce qui augmente sa résilience. Si jamais on découvrait un virus ou un trou de sécurité dans le cœur de Chrome, eh bien, tous les navigateurs du monde seraient touchés, sauf Firefox. Et ça, c'est très important d'avoir cette diversité, parce que le web, c'est important, et il faut qu'il soit résilient. Et il n'est résilient que s'il y a diversité des moteurs. Voilà.
Merci Tristan, d'ailleurs, pour je hack un peu ton interview, mais sur ce concept de diversité, je conseille l'article sur l'archipélisation qui est paru sur le Framablog, qui fait la promotion. C'est pas exactement ce dont tu viens de parler, mais on retrouve des similarités sur la nécessité d'avoir des choses diverses qui travaillent ensemble. Mais puisqu'on parlait de blog, je peux reciter ton blog, le Standblog, et parler également, pour conclure, une dernière question, d'un livre que tu as écrit il y a 2-3 ans de mémoire, qui s'appelle Surveillance. Tu as énoncé tout à l'heure quelques alternatives que l'on avait, hein, changer de navigateur, de moteur de recherche, etc. J'ai trouvé que dans Surveillance, tu vulgarisais particulièrement bien l'ensemble des enjeux liés à la préservation de la vie privée sur le web, et donc en une minute pour conclure, saurais-tu mettre en avant un des points particuliers de ton livre, si on ne devait en retenir qu'un seul ?
Ben, je crois qu'il faut se poser la question du business model des outils qui nous sont proposés. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement dangereux, non pas pour nous individuellement, mais pour nos sociétés. Je ne parle pas de société commerciale, hein, je parle de la société démocratique dans laquelle on vit, dans nos démocraties. On a ce problème que des géants ultra puissants, des Google et des Facebook, payent les gens les plus intelligents possibles pour collecter de la donnée personnelle et gagnent énormément d'argent avec ça. Et ils sont prêts à tout pour gagner toujours plus d'argent. Et on le voit avec des affaires type Cambridge Analytica. Cet amas de données personnelles est une véritable menace pour la démocratie. Cambridge Analytica a utilisé les ressources de Facebook pour hacker le Brexit et hacker les élections américaines. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que si on est dans une société, et c'est pour ça que mon livre s'appelle Surveillance, si on se met dans une société de surveillance numérique, parce qu'on se dit ah ouais, le nouveau téléphone Google Pixel machin avec Android dessus, c'est trop cool, il y a une caméra de 42 pixels et il est beau et la pub est sympa, on se trompe de combat, on est passé à côté du problème. Ce qui est dangereux, c'est de laisser des géants capter un maximum de données. Et donc aujourd'hui, quand on va utiliser un nouveau service, il ne faut pas juste penser au prix, parce que le prix, malheureusement, il est caché. On est souvent poussé à la gratuité, et c'est aussi le cas de compte. Mais derrière, quel est le business model ? Comment est-ce que la société gagne de l'argent ? Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à payer pour un service, voire à utiliser un service gratuit associatif, et faire un don à l'association, à l'un des multiples chatons ? Et à ce moment-là, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, et on a des services qui sont éthiques, qui ne reposent pas sur la collecte de données personnelles et qui donc préservent la possibilité d'un futur joyeux pour nos démocraties.
Merci beaucoup Tristan de cette conclusion. On aura retenu des vaches laitières, des chatons, des œufs, des paniers. Et donc, globalement, l'idée de de faire attention au business model et de faire attention aux contreparties que l'on a avec les acteurs, les services que l'on utilise. On va poursuivre, Tristan, avec traditionnellement ce que l'on appelle l'échange, c'est-à-dire une discussion entre les membres dans le studio. Mais si tu le souhaites et si tu en as la disponibilité, tu peux rester avec nous. Si maintenant tu as des obligations par ailleurs, tu es libre de nous quitter.
Non, je reste très volontiers avec vous et n'hésitez pas à me faire taire si je parle trop.
Ok, on va essayer. Alors, donc tu as déjà largement dépassé hein, les quotas prévus, mais on t'a laissé faire, donc il n'y a pas de souci. Alors, et puis le principe des quotas, c'est que c'est fait pour ne pas être respecté. En petite intro, peut-être, on a donc largement cité Quant. Il existe aujourd'hui d'autres alternatives à Google Search que l'on peut mettre en avant. Quentin, Rémi, vous voulez en citer quelques-unes?
Il y a donc un moteur de recherche qui est très connu aujourd'hui aussi, qui s'appelle DuckDuckGo. Donc, qui est également. Alors, je ne crois pas qu'on ait défini métamoteur, mais on va. Bon, si, on l'a.
Pas encore, on a prévu de le faire plus tard, mais on peut le faire quand on veut.
On va le faire tout à l'heure. Donc, DuckDuckGo, qui est aussi basé sur un modèle avec de la publicité non ciblée. On a aussi Ecosia, je pense, dont beaucoup en France ont entendu parler, donc qui promet de planter des arbres avec les revenus publicitaires. Et Lilo, qui est également, comme Ecosia, un moteur de recherche, qui reverse de l'argent à des associations avec les revenus publicitaires. Mais en tout cas, tous ces moteurs sont aussi basés sur un système de modèle économique basé sur la publicité.
Rémi, d'autres choses à citer? Non,
non là, j'en ai
bon,
pas,
bah,
en fait.
peut-être ça nous reviendra pendant l'émission si on a envie. Peut-être on pourrait juste donner quelques éléments de base sur la façon dont un moteur de recherche fonctionne. En gros, les grandes étapes. Rémi, je crois que tu te lances.
Ouais. Alors du coup, un moteur de recherche, ça fonctionne en trois grandes étapes. D'abord l'exploration, puis l'indexation, et ensuite l'affichage. Donc l'exploration, en fait, c'est des petits robots logiciels qu'on appelle des crawlers, qui vont parcourir toutes les pages web. Donc il va aller sur une page, il va regarder tous les liens, il va cliquer sur les liens, regarder tous les liens sur cette page-là, cliquer sur les liens, etc. Et du coup, ça permet de répertorier énormément de pages. Donc là, on a plusieurs milliards de pages qui sont répertoriées ainsi. Ensuite, du coup, une fois qu'on a exploré tout ça, on va vouloir indexer ça pour les mettre dans une base de données. Donc là, toutes ces pages-là, on récupère les mots significatifs de ces pages. Et on les indexe dans une base de données. Par exemple, si on veut rechercher le mot joie, ben on va taper le mot joie et on va voir quelle page parle du mot joie. Et enfin, l'affichage, où donc là, c'est quand l'utilisateur va faire une recherche. Ben on va ressortir du coup les pages qu'on a enregistrées dans la base de données qu'on a déjà indexées. Les mots de la recherche sont comparés avec les mots dans la base de données. Il y a énormément de résultats qui sont possibles du coup. Et là, il y a un algorithme qui dépend de chaque moteur de recherche qui va afficher dans l'ordre qui semble le plus pertinent. En général, il y a deux paramètres principaux qui sont la popularité du site et la pertinence du site. Donc la popularité, c'est le nombre de liens entrants et sortants, est-ce qu'il est beaucoup visité. Et la pertinence, c'est est-ce que le titre de la page ou les mots-clés dans la page ressemblent fortement à la requête qu'on a tapée.
Alors ça paraît pas très très compliqué quand tu décris ça, mais la difficulté en fait fondamentalement, elle est liée à l'immense masse de données qui est concernée, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Sur le web, il y a plusieurs milliards de pages web. Et du coup, bah, avoir un petit ordinateur qui va tous cliquer dessus et les indexer dans une grande base de données, ça prend énormément de place et de puissance de calcul. Donc c'est pour ça qu'il y a des énormes data centers qui font ça. Et c'est pour ça que du coup, faire un moteur de recherche à partir de zéro, bah, ça demande beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup d'argent.
D'ailleurs, on peut aussi noter que j'ai l'impression qu'une des choses les plus difficiles dans cette histoire et une des moins neutres, c'est l'affichage, puisque comment sélectionner les résultats de recherche pour un utilisateur donné. Et justement, Google en fait a développé son hégémonie en sortant aussi un algorithme qui faisait ça de manière assez efficace et le faisait très bien pour l'époque. Donc c'est aussi une des raisons de son utilisation et son implantation. Après, on y reviendra à ses débuts, mais sur le marché des moteurs de recherche. Quoi.
Et on a commencé à parler de métamoteur de recherche, je pense que c'est peut-être le moment d'en parler, notamment parce que effectivement toutes les alternatives qu'on a citées en dehors justement de celle de Quant, eh bien, sont des métamoteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des programmes qui vont réutiliser les moteurs de recherche qui existent par ailleurs, donc en particulier Google Search. Et donc, Quant est aujourd'hui une des rares initiatives qui cherche à développer sa propre base de recherche indépendante. Alors, ils ont une part de fonction de métamoteur aussi. Tristan nous en dira peut-être deux mots. Il y avait un lien à l'origine fort avec Bing, le moteur de Microsoft. Mais l'enjeu est de se distendre le plus possible de ce lien, d'acquérir de l'autonomie. Et alors, je crois qu'il existe aussi des gros vrais moteurs de recherche dans d'autres zones géographiques, Baidu en Chine, Yandex en Russie. Mais pour le moment, on n'a pas beaucoup d'alternatives. On le regrette, et c'est en ça, à mon sens, que Quant a une place à part à trouver dans les alternatives existantes. Je ne sais pas, Tristan, si tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou sur le...
Je suis tout à fait d'accord avec ça, en fait. En gros, ça c'était très bien dit, c'est pour ça que je me suis pas permis de vous interrompre, parce que c'est remarquablement expliqué, mais vite fait... Construire un moteur de recherche, ça coûte très cher parce que, vu l'échelle du web, il faut investir dans du matériel et puis faire beaucoup de logiciels pour être performant sur ce matériel, pour indexer des volumes de données. Donc, parcourir des centaines de milliards de pages, indexer et faire des calculs sur ces centaines de milliards de pages, ça coûte littéralement des millions d'euros de faire ça, et il faut le faire très régulièrement parce que le web... évolue et qu'il faut de l'information fraîche sur le moteur. Donc, le problème, quand un entrepreneur se dit « je vais faire un moteur de recherche », c'est soit il a réussi à trouver de l'argent et il est très audacieux, il dit « je vais faire un vrai moteur », soit il y a plus de chances, et c'est le cas pour Lilo, c'est pour Ecosia, pour Startpage, pour DuckDuckGo, il dit « en fait, je vais pas m'embêter avec cette complexité technique qui est très coûteuse, je vais plutôt acheter des résultats de recherche à un moteur déjà établi. C'est ce qu'on appelle donc un méta-moteur. C'est un faux moteur, quelqu'un qui fait un peu passe-plat entre un utilisateur et un vrai moteur de recherche. Et chez Quant, on a toujours voulu être un vrai moteur avec nos index, notre technologie, mais le temps de construire ce moteur, cette technologie, eh bien, on a utilisé, comme Ecosia, comme Lilo, les résultats de Bing. Et aujourd'hui, sur certaines recherches, on a encore des résultats de Bing chez Quant, mais l'essentiel est fourni par Quant avec son propre index. Et ça, c'est très important parce que derrière l'approche de Quant, il y a une volonté de faire de la souveraineté, c'est-à-dire de donner à l'Europe, à la France, qui sont l'endroit où on vit, une technologie, parce qu'on pense que cette technologie, elle est essentielle. C'est très important pour nous que l'Europe et la France soient dotées d'un moteur de recherche pour être autonome, pour être souverain. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas rester un métamoteur, mais bien de devenir un moteur indépendant avec sa propre technologie. Il y a un deuxième aspect.
Je t'en prie, Tristan, vas-y, un deuxième petit aspect.
C'est aussi de créer des emplois en France. On est une région où il y a de l'infrastructure, il y a des systèmes d'éducation, il y a des consommateurs qui ont de l'argent, on est un des coins les plus riches de la planète. Il n'y a pas de raison qu'on devienne une colonie numérique. Et il n'y a pas de raison qu'on laisse des boîtes étrangères venir en France, prendre l'argent, se barrer sans payer d'impôts ou en faisant un maximum d'évasion fiscale. Nous, ce qu'on veut, c'est créer des emplois en France, payer des impôts en France, parce que il faut pas laisser être pillé, quoi, tout simplement, en France et en Europe.
Et puis c'est important de payer notamment les profs avec les impôts. Donc,
évidemment, c'est évident, parce que les impôts, on peut trouver que c'est désagréable, les impôts, mais les impôts, fondamentalement, c'est ce qui paye les infrastructures, l'éducation, etc. Si on veut que le système continue de fonctionner en France et en Europe, il faut créer une dynamique numérique en France et en Europe qui crée des emplois, qui crée pour éviter le chômage et qui génère de l'impôt et qui donc permet de payer des services publics, évidemment.
Merci Tristan de ce glissement fort à propos sur donc la souveraineté numérique. On va continuer en continuant de parler du moteur de recherche en général, de sa place dans nos usages et d'une place effectivement qui est devenue totalement centrale, hein, comme je fais souvent à mon époque. On n'entrait pas forcément sur le web par un moteur de recherche. On connaissait des adresses, on les bookmarkait, on faisait des trucs assez incroyables comme ça. On les notait des fois dans des fichiers. Et quand on avait un truc à chercher, on utilisait un moteur de recherche. Mais c'était pas le point d'entrée central. Et aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu dangereux, Quentin, de tout comme ça passer par le moteur de recherche?
Ben oui, évidemment. Comme l'a rappelé Tristan, un des principaux enjeux des moteurs de recherche comme Google, c'est la collecte de données. Et aujourd'hui, on utilise les moteurs de recherche pour absolument tout et n'importe quoi. Alors j'avais quelques exemples en vrac. Pour trouver un restaurant, on va chercher... Alors, certaines personnes, on va dire, vont chercher sur Google pour chercher les symptômes d'une maladie. On se sent pas bien, on a des boutons, on va regarder sur Google. Pour préparer un voyage, on va aussi chercher sur Google. Pour se renseigner sur quelqu'un, avoir des infos, alors dans le cercle privé ou dans le cercle public, on va aussi chercher sur Google. Comme tu disais, Stéphane, à ton époque, on bookmarkait. Aujourd'hui, on tape le nom du site pour le retrouver. Donc c'est vraiment le point d'entrée de une très grande majorité de notre activité sur Internet. Donc évidemment, déjà, ça en dit beaucoup de nous, bien sûr, ça on l'a vu dans plein d'autres émissions, ça permet la collecte de données et la publicité ciblée, mais c'est pas un seul problème, et même je dirais c'est un problème encore plus grand qui nous attend avec ça. Comme Rémi l'a rappelé, la dernière partie, la troisième étape d'un moteur de recherche, c'est celle de l'affichage, c'est celle de la sélection des résultats. Et donc, comme quand on va chercher quelque chose sur un moteur de recherche, on est vraiment dans une attente, on est prêt à recevoir quelque chose, et je pense que c'est le moment idéal pour nous balancer des résultats biaisés ou de la pub ciblée, ce qui nous amène, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut en parler, aux fameuses bulles de filtre dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, qui sont un enjeu politique et social absolument gigantesque.
Ouais, on peut peut-être enchaîner là-dessus, je ne sais pas si Rémi, tu veux comme ça... continuer cette discussion à trois voix, mais la recherche personnalisée, c'est-à-dire le fait d'avoir effectivement des résultats de recherche qui dépendent de notre profil d'utilisateur, conduit à ce qu'on appelle des effets de bulle, et comme le dit Quentin, c'est un vrai souci.
Tout à fait, le plus gros souci, c'est que du coup, on ne découvre plus rien. Google sait ce qui nous intéresse, donc il va nous donner uniquement ce qu'il sait qui nous intéresse déjà, ou au contraire, qui nous fait fortement réagir dans l'autre sens, donc par exemple du contenu qu'il sait qu'on va haïr. Et du coup, ça fait qu'on reste enfermé dans cette bulle de filtre et qu'on ne peut plus découvrir autre chose, on n'a presque plus du tout de diversité. On peut voir l'exemple sur YouTube, par exemple. Souvent, on a regardé 3 vidéos sur YouTube, et là, c'est bon, toutes les suggestions, elles sont dans ce domaine-là, et on n'en sortira plus jamais, à moins de nous-mêmes faire une autre recherche très différente à côté. Mais du coup, on reste vraiment bloqué dans cette bulle, et donc ça nuit à énormément de choses, notamment à la diversité, et à se faire un esprit critique.
C'est pour moi, ça interroge la notion même de pertinence. On entend souvent, et d'ailleurs, on peut aussi faire cette petite parenthèse, mais lorsque des gens passent de Google à autre chose, à Quant ou à DuckDuckGo, souvent leur premier réflexe, c'est de dire « Ah ouais, mais ça marche pas parce que c'est moins pertinent. » Et du coup, une question intéressante, ce serait d'interroger cette pertinence. Ça veut dire quoi être plus ou moins pertinent. Alors souvent, ce qu'on peut dire, c'est qu'on identifie moins rapidement effectivement l'adéquation entre notre recherche et le résultat. Mais c'est super logique, puisque comme on l'a vu, étant donné que Google nous fait une réponse qui est complètement dimensionnée en fonction de tout ce qu'il sait sur nous, mais quelque part, il est logique qu'elle nous plaise. Elle nous a été taillée sur mesure, donc elle nous fait plaisir, mais pour autant, est-ce qu'elle est pertinente et est-ce ce qui est vraiment ce qui est le plus intéressant pour nous? On peut tout à fait en douter.
D'ailleurs, notons que pertinent, c'est quand même le mot, l'euphémisme le plus utilisé aujourd'hui. Dans toutes les conditions générales d'utilisation, on nous sort la pertinence comme excuse pour exploiter et vendre nos données. Et en plus de ce que tu dis, Stéphane, en plus de cette personnalisation, ces réponses qui sont taillées pour nous, je pense qu'il y a aussi un conditionnement à un certain type de contenu, du contenu peut-être un petit peu manichéen, en tout cas du contenu qui va être peut-être un peu simple aussi, assez rapide, assez fast-food. Et donc nécessairement, quand on passe à quelque chose qui n'a plus la présentation de ce contenu comme objectif, puisque c'est celui qui va nous faire le plus cliquer, le plus rester, etc., ça peut arriver d'être désorienté. Ça m'est arrivé. Je pense que ça arrive à tout le monde. Donc c'est aussi une question de se déconditionner et finalement de s'ouvrir à plus de diversité que de changer de moteur de recherche.
Et en effet, changer de moteur, peut-être même diversifier ses moteurs, en utiliser plusieurs, peut-être même, comme on l'a dit également, ne pas toujours utiliser des moteurs, ça peut être une façon d'explorer ce qu'on appelle parfois le web profond, c'est-à-dire cette grande partie du web, ce très grand nombre de sites web qui en fait sont difficiles à trouver grâce à un moteur de recherche, qui sont mal indexés pour différentes raisons. Je ne sais pas si quelqu'un a quelques exemples autour de ça.
Non, mais juste parler du coup de l'indexation et de l'optimisation de l'indexation. Il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées dans ça et donc qui vont sur un site web faire tout ce qu'il faut pour que le site remonte au maximum dans les moteurs de Google, de Bing, etc. Et donc ça coûte vraiment très très cher. Il y a d'entreprises dont le métier est de prendre beaucoup d'argent pour dire « Ah bon, on va changer tel mot-clé, on va avoir telle ou telle présentation parce que c'est ça qui va être le mieux adapté. » Et du coup, ça nuit à des plus petites structures qui n'auraient pas forcément les moyens de mettre autant d'argent dans cette optimisation de la recherche et qui du coup se retrouveraient non indexées ou beaucoup moins bien indexées dans ce que tu appelles du coup le web profond.
En effet, il y a cet aspect-là. Il y a aussi une sorte de circularité, c'est-à-dire que puisque de toute façon les résultats sont liés à la popularité, hein, c'est un des deux critères que tu as cité tout à l'heure, eh bien en quelque sorte, si je suis populaire, je suis facilement trouvable. Bah, si je suis facilement trouvable, par définition, je deviens populaire et je reste populaire, etc. Donc il y a un effet d'auto-entraînement, en fait, voire de cercle vicieux qui fait que eh bien, plus on est populaire, plus on va le rester. Et donc, eh bien, on pourrait dire qu'il y a quand même plein de choses chouettes sur le web que l'on ne peut pas facilement trouver avec des moteurs de recherche, a fortiori si on n'en utilise qu'un seul.
Et du coup, ça rejoint aussi l'archipélisation, cette idée d'avoir plusieurs moteurs de recherche qui, si possible, quand même, sont respectueux de la vie privée et nous balancent pas plein de trucs à la gueule comme actuellement, mais voilà, qui nous permettent de nous ouvrir. Donc.
Alors, on a un autre sujet qu'on voulait traiter. Je crois qu'on est un petit peu en retard aujourd'hui, mais peut-être qu'on va s'autoriser de dépasser, en fait. On va absolument pas respecter notre timing habituel.
Allez, on fait ça.
Ok.
Mais c'est pas la première promesse qu'on tient pas, hein, donc à un moment...
Exactement. Donc, si vous aviez prévu d'écouter l'émission pendant 45 minutes, eh bien, réservez 15 minutes de plus, ça devrait suffire. La question ce qu'on voulait interroger également, c'était la question de la publicité. Alors on l'a vu avec l'introduction de Tristan, le moteur Quant, tous les moteurs aujourd'hui en fait fonctionnent sur la base de la publicité. On a vu également que ça avait un caractère a priori inéluctable lié aux infrastructures nécessaires. Et moi j'ai retrouvé, elle est assez connue, hein, c'était pas une grosse recherche, mais une citation assez intéressante qui date de 1998. Alors je sais pas si Rémi est chaud pour nous faire ses habituels lecture en anglais, peut-être pas de toute la citation, peut-être juste de la fin ou...
La citation, je vais plutôt le faire en français.
Eh bien écoute, tu es libre de traduire directement, on t'écoute.
Donc je cite le business model prédominant des moteurs de recherche commerciaux est la publicité. Le but d'un business model publicitaire ne correspond pas toujours à donner des recherches de qualité aux utilisateurs. Par exemple, dans notre prototype, donc Google, le meilleur résultat pour un téléphone cellulaire et les effets du téléphone cellulaire sur l'attention d'un conducteur. Donc là, c'est une étude qui explique qu'il y a un grand risque de distraction quand on est au téléphone au volant. Ce premier résultat vient en premier parce qu'il est d'une grande importance, tel que jugé par l'algorithme PageRank, dont on reparlera peut-être plus tard. Mais par contre, c'est clair que si le moteur de recherche prend de l'argent d'une boîte qui vend des téléphones, ça va être compliqué de justifier qu'il y a en première page un truc qui dit que les téléphones, c'est pas bien. Donc pour cette raison... Pour cette raison et par expérience avec d'autres médias, une citation
de quelqu'un.
Peu importe... Il suppose donc que les moteurs de recherche qui sont financés par de la publicité vont forcément être biaisés vers les publicitaires et contre, du coup, les besoins des consommateurs.
C'est très savoureux comme citation, ouais. Dis-moi Stéphane.
C'était pas une citation
Rémi m'a un peu gâché mon effet, parce qu'effectivement, on a ici, on a l'impression d'avoir une citation d'un collectif anti-pub, de gauchiste anti-moteur de recherche, qui dirait donc qu'il n'est pas possible d'allier publicité et recherche de qualité. Et il se trouve que cette citation est extraite d'un article qui s'appelle « The Anatomy of a Large Scale Hypertextual Web Search Engine », dont les premiers mots sont, et là je les lis, « In this paper, we present Google a prototype of a large scale search engine ». C'est-à-dire que ce que Rémi vous a traduit, eh bien en fait, c'est l'annexe A d'un des articles fondateurs de Google, dans lequel Larry Page, un des fondateurs de Google, explique l'incompatibilité structurelle entre une recherche de qualité et la publicité. On est en 1998, et donc encore une fois, cette hypothèse est formulée sous la forme d'un papier de recherche par ceux qui ont créé Google.
Donc moi, j'ai trois choses à dire, si j'ai eu le temps, vite fait. 98, oui. C'était la création de Google. 2019, les deux patrons ont annoncé qu'ils quittaient l'entreprise, il y a quelques jours. Et donc, c'est pas tout à fait un hasard, quoi. Je pense qu'ils ont fait le tour de la question, puis ils sont riches, ils peuvent pas dépenser tout ce qu'ils ont avant de mourir, donc voilà. C'est plus que riche, quoi. Il y a un moment, tu peux plus compter, quoi. Et il y a une troisième chose qui est une citation d'un truc très intéressant qui s'appelle Upton Sinclair, qui est un américain, un penseur américain. Et qui disait, il est extrêmement difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre. Et là, tu mesures entre 98 et 2019, qu'en 98, ils comprenaient encore des choses parce qu'ils n'avaient pas vu l'argent. Et depuis, ils ont vu l'argent et ils ont arrêté de s'en préoccuper finalement. Quoi. Si ce problème n'existait plus, voilà.
On est vraiment effectivement, mais bon, ça a quand même. Enfin, je trouve que ça, voilà. En tout cas, l'interrogation est au moins légitime. Et donc effectivement, si on élargit un peu plus, là, en fait, la publicité, eh bien, c'est le moteur aujourd'hui d'un modèle de consommation, d'un modèle de société qui est fondé sur la consommation, sur la croissance. Hein, la publicité, c'est ce qui fait fonctionner ça. Donc, par construction, en quelque sorte, c'est ce qui crame de l'énergie pour le faire un peu rapidement. Hein. Voilà, on pourrait se poser des questions autour de ça. Quand Ecosia, par exemple, reverse ses gains, une partie de ses gains pour planter des arbres, bah c'est cool, mais c'est quand même un peu, on est quand même dans un cercle un peu bizarre, puisque je finance grâce à la pub, donc in fine grâce à des arbres, de quoi replanter des arbres. Et alors je m'en prends pas à Ecosia en particulier, hein, c'est vachement bien d'avoir ce genre d'initiative, mais on aurait envie de chercher un modèle alternatif à ça. Est-ce que demain on n'a pas moyen de rechercher sur le web autrement que en utilisant la publicité comme moteur? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'on a des pistes pour ça, Quentin, Rémi?
Eh ben, on a quelques pistes. Effectivement, dans cette émission, on aime beaucoup parler de décentralisation et de fédération. Il existe des moteurs de recherche décentralisés, fédérés, qui fonctionnent en peer-to-peer, donc en pair-à-pair. Mais de fait, aujourd'hui, il ne marche pas très bien. Le plus abouti s'appelle Yaci, Y-A-C-Y. Et donc, c'est un moteur de recherche qui est libre. Et l'idée, c'est qu'on va l'installer sur son ordinateur et on va être connecté à tous les autres gens qui l'ont installé. Et au lieu d'avoir, du coup, les gros data centers de Google ou de Quant, bah, ça va être nos ordinateurs à nous qui vont faire tout ce travail. Alors, ça a des avantages, notamment donc, tous les avantages de la décentralisation. Il n'y a pas une concentration du pouvoir, il n'y a pas de possibilité de censure. Il n'y a pas de concentration des acteurs du coup qui vont plutôt gagner de l'argent contre les utilisateurs. Il y a le fait que ce soit libre. Et il y a le fait que toutes les données du coup restent sur le poste de l'utilisateur. Par contre, ça a quand même pas mal d'inconvénients. On n'a accès que aux pages qui ont été déjà cherchées par des utilisateurs de Yaci. C'est pas très rapide parce qu'au lieu d'avoir un gros data center qui répond, on est obligé d'interroger tous les autres gens qui demandent. Il n'y a pas vraiment de modèle économique, donc on a un logiciel qui marche par les dons, par les bénévoles, mais en fait, il ne marche pas si bien que ça. Et du coup, aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez d'autres alternatives, mais c'est correct, mais ce n'est pas encore à la hauteur.
Vas-y, Quentin.
Non, je dis juste que les moteurs de recherche, c'est quand même un des services qui, en tout cas, bénéficie le plus de la centralisation au niveau de la pertinence et de la qualité des résultats. Donc c'est vrai que oui, il est possible dans le futur que on ait des initiatives de ce genre qui fonctionnent, en particulier si on arrive à avoir un web plus décentralisé. Alors là, je voyais qu'on avait noté IPFS, donc ça me paraît un peu hors sujet d'en parler maintenant, mais en tout cas, il y a des initiatives qui se lancent pour que chacun soit souverain de ses données, les ait sur son poste, qu'il y ait beaucoup plus de pair à pair qu'il y a aujourd'hui. Mais tel qu'Internet, enfin, tel que le web est construit aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit possible à court terme, quoi.
Ce qu'on pourrait peut-être espérer, qui sait, hein, puisqu'on s'approche de Noël en plus, donc on peut, et puis des vœux de fin d'année, on pourrait peut-être espérer par exemple qu'un jour Quant libère l'ensemble de son code et le propose aux chatons pour que chacun en héberge une partie et ainsi qu'on participe comme ça de la décentralisation de la recherche. Ce n'était pas une question, mais un souhait évidemment uniquement personnel que je formule ici.
Mais justement, je dois dire que déjà, une partie du code source de Quant, en partie les crawlers, mais pas que, est déjà publique, voilà, et libre.
Donc on a le début et les choses s'élargiront petit à petit, peut-être, Inch'Allah, comme on dit.
Et puis juste, pour le coup, au niveau de Quant, je me dis qu'en vrai... Enfin, à leur place, alors là je vais peut-être me faire taper en disant ça dans la voie libre, mais je trouve ça compliqué de libérer l'algorithme d'affichage, justement de sélection des résultats, parce que quand on voit les abus qui sont faits, comme Rémi nous l'a rappelé, avec les boîtes qui veulent optimiser les résultats, plus on connaît les règles de l'algorithme, plus on va pouvoir tricher, et finalement tricher à tel point qu'on peut arriver à presque... pourrir tout le système. Après, connaître les règles de l'algorithme,
c'est un des défis, si jamais on veut ouvrir complètement le code, c'est qu'on est dans un modèle où il y a des gens qui veulent pourrir le travail du moteur de sélection des meilleurs sites parce qu'ils ont un intérêt économique à le faire. Et ça, c'est effectivement un problème.
Mais en même temps, c'est vrai que connaître les règles de l'algorithme, ça permettrait de savoir ce qu'on a dans nos assiettes et pourquoi on nous sert ça. Donc voilà, quoi, la balance est toujours fine, je trouve.
Puisqu'on a commencé à dépasser, je vous propose qu'on fasse même le dernier petit paragraphe avant de passer au quiz qui, je me rends compte, fera encore la part belle à Quant. Donc je tiens à préciser qu'on n'a absolument pas bénéficié de subventions de la part de Quant, ni même à ma mémoire.
T'as fait des recherches gratuitement. Hein, quand même.
J'ai fait des recherches gratuitement. Non, pas gratuitement, j'étais payé en attention avec ça. Donc normalement, on est à peu près quitte. Hein. Bon, on verra. Peut-être une bière ou deux dans un coin, mais on réglera ça plus tard. Mon dernier point, c'était aussi, on en a déjà un petit peu parlé, mais en quelque sorte, si on arrêtait un peu de chercher, hein, on l'a déjà dit, mais l'usage du moteur, c'est vraiment ultra généralisé, à tel point qu'on a l'habitude de chercher aujourd'hui plein de choses qu'on connaît déjà. Le moteur de recherche a remplacé les favoris, en quelque sorte, sauf que, Quentin l'a dit, mais je le répète, utiliser Google Search pour aller, par exemple, sur le site de l'UTC, au lieu de taper utc.fr, ce qui est quand même pas ultra compliqué à se souvenir dans ce cas-là, notamment si on est un étudiant de l'UTC, par exemple, ça veut dire au moins trois choses. Ça veut dire faire des requêtes inutiles, donc consommer un peu d'énergie pour rien. Alors, on peut considérer que c'est pas beaucoup, mais néanmoins, c'est un petit peu, et ce petit peu multiplié par l'immense quantité de requêtes inutiles, eh bien, ça représente quand même quelque chose. Ces deux, on l'a dit, donner des informations à Google si on utilise Google Search. Et donc, trois, dans tous les cas, c'est faire prospérer le modèle publicitaire. Donc, sachez qu'à chaque fois que vous taperez une adresse dans votre barre d'adresse, au lieu de faire une recherche, eh bien, vous économiserez un peu d'énergie, vous éviterez de donner des infos à Google et vous ferez légèrement baisser le niveau de la publicité dans le monde. Donc, ce n'est pas si inutile que ça.
Et la barre d'adresse de Firefox, elle est super bien faite pour vous suggérer les meilleurs sites.
Elle se souvient des trucs pour nous en plus. Ouais. On passe au quiz, et promis, c'est la dernière fois qu'on dit du bien de Quant pour aujourd'hui, notamment parce que l'émission va se terminer.
Et bah, c'est parti. Donc, le quiz du jour, eh bien, c'est une question ouverte, puisqu'on a décidé de rien faire comme les autres émissions aujourd'hui. Donc, la question, c'est: si j'utilise un métamoteur de recherche comme Ecosia, Lilo ou Ecogine, dont on n'a pas parlé, pour soutenir financièrement des projets écologiques ou solidaires, mais que je souhaite aussi soutenir l'émergence d'un moteur à part entière, que puis-je faire? Voilà la question.
La question est donc ouverte. Et là, non,
tu n'as pas le droit de répondre.
Non, tu n'as pas le droit, Tristan. Tu n'es même Tu n'es même pas sûr que c'est la réponse que l'on va donner. Musique ?
Alors oui, on passe à la musique. Alors Tristan, fais gaffe, tu ne nous entendras plus pendant la musique. Et elle dure 5 minutes. Donc qu'est-ce qu'on... Tu restes avec nous quand même pendant ces 5 minutes de silence ou...
Oui.
Ok, et on te dira au revoir à la fin du morceau donc.
Eh ben c'est parfait, à tout à l'heure aujourd'hui. On va écouter The Search for a Meaningful Existence du groupe The Search sur l'album The Silver Slot. Et c'est en CC by NCND déniché sur le site Dogmazic. Comme d'habitude, bonne écoute. We'll be right back. Et de retour dans La Voix est libre sur Graphite 94.9 après cette super musique de The Search. On est toujours avec Tristan Nitto. Et donc pour rappel, le quiz c'était de savoir si on voulait utiliser un moteur de recherche comme Ecosia Lilo pour soutenir financièrement des projets écologiques et solidaires, mais qu'on souhaitait aussi participer et soutenir l'émergence d'un moteur à part entière. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on avait interdit à Tristan de répondre avant la musique, mais peut-être Tristan que tu peux nous donner la réponse, que je pense que tu as une idée.
Eh bien, en fait, chez Quant, on a fait un mode de moteur qui s'appelle Cause. Et donc, quand vous activez ce mode, ça affiche des publicités supplémentaires. Et quand vous cliquez sur ces publicités, ça donne de l'argent à une cause par défaut. Mais aussi, ça peut être, si vous prenez le temps de choisir une association, ça peut être cette association qui sera réceptacle de l'argent généré. Donc on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut à la fois utiliser un moteur souverain respectueux de la vie privée et que les recherches génèrent de l'argent pour des associations.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup.
C'est bon ou pas?
Oui, pardon.
On aurait été un peu salaud.
Quand même, ça aurait été drôle, on a arrêté ça.
Pas mince, du bon. Tout. Non, bah écoute, non, merci beaucoup. Moi, je voulais juste terminer sur une micro-ouverture et j'en profite pour saluer le Café des Lumières, asso philo à l'UTC, avec qui on a eu le plaisir de faire un débat autour du libre. En se posant cette question, effectivement, c'est génial de pouvoir utiliser les revenus publicitaires pour soutenir des initiatives solidaires, écologiques, sociales et tout ce qu'on veut. Mais peut se poser la question de est-ce qu'on peut vraiment changer le système de l'intérieur progressivement, par exemple en utilisant la pub, ou bien est-ce que finalement c'est juste, comme on dit, faire le jeu du système. À l'opposé de ça, on a la question de la radicalité, à ce moment-là, de refuser par exemple tout revenu publicitaire, mais est-ce qu'on risque pas dans ce cas-là de se retrouver dans son coin, de pas pouvoir finalement atteindre son but et de faire de l'entre-soi? Je pense que c'est une question très difficile à laquelle il est difficile de répondre, mais qu'on peut, on peut se poser et méditer tranquillement en cette fin de matinée.
Merci Quentin, merci Rémi, merci beaucoup à Tristan d'avoir été avec
merci.
Nous,
merci Stéphane,
et au plaisir de te recroiser bientôt ici ou là.
Allez, on vous souhaite une bonne fin de journée à tous, au revoir.